Bonjour à tous. Un excellent sabbat pour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet dont je veux entamer va nous prendre deux parties. Aujourd'hui, nous verrons la première partie et dans la deuxième partie, nous verrons un peu plus la profondeur du message. Nous avons franchi une belle étape il y a quelques semaines avec la Pâque et la fête des pains sans levain. Et dernièrement, la semaine passée, avec la Pentecôte. Nous avons mesuré là où nous étions rendus, chacun de nous, à ces fêtes printanières, au niveau du développement de notre développement spirituel, de ce qui a pu être éliminé de notre caractère, de ce qui a pu être amélioré au niveau de nos comportements, ainsi que de nos attitudes. Mais aussi, du désir de vouloir continuer dans la même direction tout en sachant ce qui se déroule devant nous. Si nous jetons un coup d'œil autour de nous, nous comprenons très rapidement qu'il y a d'énormes transformations qui s'opèrent sur la scène mondiale et que le monde n'a jamais été perturbé comme il l'est en ce moment à plusieurs endroits sur la planète. Et tout nous porte à comprendre que cela va s'accentuer en empirant avec le temps. Matthieu 24, et nous prendrons le verset 6 et 8. Alors, ici c'est Jésus qui parle à ses disciples. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Si nous prenons le verset maintenant 7, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Enfin, le verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous avons pratiquement entendu parler de bruits de guerre et de guerre depuis notre jeune enfance. Guerres qui se sont produites dans le passé et qui nous ont été révélées par l'intermédiaire de documents, par la parole de Dieu ou encore par les médias modernes, les médias sociaux modernes que nous possédons. Par contre, ce qui se passe actuellement commence à prendre une ampleur considérable sur différents continents et les dirigeants de notre monde voient avec stupéfaction de grandes conséquences à un avenir pas trop prometteur pour les civilisations mondiales. S'il n'y a pas de gros ajustements aux procédures à utiliser pour faire les choses afin que tous puissent bénéficier d'une paix et d'une collaboration parfaitement équilibrée pour le bonheur de tous, un chaos énorme risque de perturber une grande partie de la population mondiale. On peut même constater que plusieurs dirigeants mondiaux font des efforts énormes pour conserver une certaine stabilité au niveau d'une paix qui semble être très difficile à concrétiser, et cela dans le monde entier. Différentes approches sont mises en place pour obtenir une certaine stabilité, pour l'obtention d'une paix qui soit équilibrée et qui permette à l'épanouissement de tous. Certains engagements sont pris pour maintenir un équilibre fragile qui risque de se rompre à tout instant, alors que d'autres engagements pourraient être pris, mais risqueraient d'ébranler soit des personnes, soit des sociétés, ou même des accords économiques qui pourraient fragiliser un pays tout entier. Le titre de mon exposé, Sommes-nous effrayés par certains engagements? À tous les jours, nous nous retrouvons dans une situation où nous avons des choix, des réflexions à faire sur une infinité de petites choses qui inévitablement nous amènent à faire ou à prendre des engagements. Que ce soit la simple fait que on se lève du lit le matin, que nous allons porter ce que nous allons porter comme vêtements, préparer le petit déjeuner ou le déjeuner dépendant du pays où nous sommes, sortir le chien pour ceux qui en ont un, aller au travail ou à d'autres occupations qui nous mèneront à la même position que lorsque nous avons commencé notre journée en sortant de notre lit. Sauf qu'à ce moment-là, ça sera pour nous coucher et dormir. Et enfin, c'est pour recommencer notre cycle journalier. Ce sont des actions, des engagements simples et routiniers qui ne nécessitent pas nécessairement des dures obligations de notre part. Par contre, certains engagements nécessiteront des réflexions qui pourront engager plusieurs responsabilités et être affectées dans leur réalisation. Exemple, s'engager à rendre service à quelqu'un qui vous attendra avec d'autres personnes pour réaliser un projet d'installation. Ça peut être installer des montants de maison, installer des murs de maison avec la toiture, ou pour encore une mise à l'eau d'un bateau, etc. Et voilà qu'à la dernière minute, vous êtes empêché de pouvoir vous y rendre. Cela pourra mettre le projet d'installation en arrêt et créer un certain malaise avec ceux qui vous attendaient. Ou encore, vous vous engagez à amener le garçon de votre frère pour lancer quelques balles au baseball ou pour le football. Et cela à votre journée de congé au travail. Mais voilà qu'au moment de partir pour aller chercher le fils de votre frère, qui vous attend avec impatience, le téléphone sonne et vous devez rentrer au travail pour remplacer quelqu'un de malade. Ce sont des ruptures d'engagement qui auront quelques petits effets de malaise, mais qui seront surmontables. Et avec le temps, on les oubliera, du moins pour quelques-unes. Il y a néanmoins certains engagements qui nécessiteront une certaine évaluation précieuse avant de passer à l'engagement dans lequel on voudrait s'engager. Évaluer le pour et le contre dans ces engagements mérite un temps d'arrêt pour bien cerner ce que comporte l'engagement et la responsabilité qui est associée à cette prise de décision et aux actions qui en découleront. Certains engagements, de par les responsabilités qu'ils engendreront, mériteront qu'un temps d'observation bien réfléchi et minutieusement évalué soit bien considéré avant de prendre la décision de s'engager et de réaliser qu'après s'être engagé, que vous ne pourrez pas exécuter pleinement l'approche que vous aviez perçue de l'engagement proposé. Certaines directives concernant les exigences de certains engagements devront être pesées et transparentes en tant que responsabilité à observer tout au long de la durabilité de l'engagement lui-même. Il y a également certains engagements qui pourront être annulés. Cela dépendra des clauses qui seront proposées dans l'engagement qui se présenteront à nous. Ces clauses ne seront pas pour la majorité de ces engagements signés sur un papier nous impliquant à respecter telle ou telle chose dans ce type d'engagement où nous aurons à faire. Une simple parole disant que nous procéderons pour faire telle ou telle chose suffira comme engagement de notre part pour sécuriser ceux à qui nous leur aurons garanti que nous ferons ce qui doit être fait. Et pour certaines personnes, une poignée de main viendra concrétiser cette confiance entre celui qui proposera quelque chose à faire et celui ou celle qui fera la chose qui sera à faire. Est-ce que cela peut et garantira que le tout sera fait à la satisfaction des deux parties en cause dans ce genre d'engagement? N'oublions pas qu'aujourd'hui, avec toute la technologie et les immenses obligations d'accomplir tant de choses par rapport à toutes les nouveautés que le monde nous propose, peuvent nous mener à prendre certains engagements sans pour autant être sûr de parvenir à tous les accomplir. C'est un dilemme avec lequel nous avons tous à composer selon la position dans laquelle nous nous retrouverons en tant que personne demandée de la part de ceux qui requerront nos services ou notre aide pour un besoin quelconque à accomplir. Désirer aider et servir peut être quelque chose de très bien, de motivant et même très agréable pour ce qui est de notre valorisation personnelle. Je veux dire ici être fier de ce que nous avons fait, de ce que nous avons accompli dans le respect des lois de Dieu, sans que ce soit de l'orgueil. Mais c'est également pour la confiance que l'on peut susciter ou encore que l'on peut établir avec beaucoup de personnes. Aujourd'hui, une des choses qui semble être très difficile à retrouver chez un individu, c'est cette confiance qu'une personne, par ses paroles et ses actions, réussira à établir en tant que sécurité dans l'esprit de la personne qui s'attendra à recevoir un travail ou une chose qui sera bien réussie, bien réalisée. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent déçus à l'égard de d'autres personnes qui ont proposé leur aide, leur soutien, et malheureusement, ces personnes déçues n'ont pas obtenu ce qu'elles prévoyaient recevoir. Par contre, d'autres personnes ont eu l'effet contraire. Ils ont bénéficié d'un soutien admirable envers ceux qui se sont engagés envers eux et ont par la même occasion créé des liens d'amitié très profond, leur permettant de devenir de très grands amis à laquelle est attachée une amitié qui persiste encore aujourd'hui. Cette grande amitié, pour certaines personnes, persiste depuis des années et même des décennies. Et pour d'autres, peu importe le temps, ce sont des liens qui ne se sont jamais brisés et ont contribué à nourrir une confiance absolument indestructible. Cela nous amène à réfléchir sur certains petits points importants en tant qu'enfants de Dieu. Les échanges que nous pouvons avoir avec d'autres nous incitent-elles à donner le meilleur de nous-mêmes? Et encore, sommes-nous capables de ressentir les émotions des autres à l'égard de l'attente qu'ils pensent, qu'ils peuvent espérer de ce que nous pouvons accomplir pour eux. Le besoin de leur attente devient-il une priorité pour nous afin d'établir ce climat de confiance qui permettra l'instauration d'une amitié, donnant un climat de bien-être en tout temps avec tous et chacun? Et enfin, le besoin des autres envers ce que nous pouvons accomplir pour eux devient-il une source d'inspiration et de méditation à l'égard de ce que Dieu réalise et accomplit pour chacun de nous? Il y a différents engagements que nous pouvons prendre et qui ne nécessiteront pas de lourdes obligations de notre part. Cependant, il y en a au moins deux qui doivent être considérés comme importants, et surtout un comme indispensable pour tous les êtres humains, qui, à un moment de leur vie, si Dieu prend contact avec eux, auront le choix de prendre cet engagement qui sera proposé par Dieu et qui devra être maintenu quoi qu'il arrive à la suite de cet engagement qu'ils prendront. C'est le plus grand et le plus précieux engagement que tous les êtres humains auront un jour à prendre ou à refuser avec toutes les responsabilités et les conséquences que cela aura au niveau du choix qui sera pris. Mais avant d'aller plus en profondeur dans cet engagement, voyons l'autre engagement important qui touchera une certaine quantité de personnes, mais pas tous. Ces personnes ne franchiront pas le cap de cet engagement, certaines personnes, et ça ne fera pas d'eux des personnes moins bonnes ou moins qualifiées, car tous les êtres humains sont amenés à la même destination, entrer dans la famille de Dieu, dans sa famille, ou ne pas y entrer. Le choix reviendra à chaque individu. Allons à Proverbe 18, Proverbe 18, s'il vous plaît. Proverbe 18. Alors, je suis dans Proverbe 18 au verset 22. Proverbe 18 au verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Allons à un chapitre plus loin, à Proverbe 19 et au verset 14. Proverbe 19 au verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Allons maintenant à Proverbe 31. Proverbe 31, s'il vous plaît. Proverbe 31. Nous irons au verset 10 de Proverbe 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et enfin, allons au verset 30 de Proverbe 31. Nous sommes dans Proverbe 31 au verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. On se retrouve ici en présence d'un engagement très précieux qui implique de quitter un état très distinctif du mariage, le célibat. Période qui est allouée à chaque individu lui permettant d'évaluer s'il veut rester dans ce choix, le célibat, ou de franchir une étape différente qui implique une bonne dose de responsabilité. De là l'importance d'évaluer les caractéristiques de chacun et voir s'il y a conformité à un engagement pour une union, permettant à l'homme et à la femme de faire un long chemin ensemble et ne pas être déçus d'avoir pris ce choix, d'avoir pris cette responsabilité. Ce désir d'apporter à l'autre, à l'un et à l'autre, le bien-être qu'il devrait retirer de cette prise de décision. S'unir l'un à l'autre pour devenir un, comme la Bible dit, prenez la référence, c'est Genèse 2 au verset 24. Nous n'aurons pas le temps de nous y référer, mais allez à Genèse 2 au verset 24 et poursuivre Dieu et le servir. En fait, c'est pour servir Dieu dans tous les aspects que comporte le mariage. Cela demande d'avoir une grande renonciation à notre moi, l'individualité. Ecclésiaste nous rappelle l'élément premier de l'engagement et la responsabilité qu'impose le mariage. Allons à Ecclésiaste. Nous sommes dans Proverbe. Allons à Ecclésiaste, juste le prochain chapitre. Ecclésiaste, et nous prendrons le chapitre 9 et nous irons au verset 9. Je suis dans Ecclésiaste 9 au verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Le mariage implique beaucoup, beaucoup de bienfaits. Et Dieu l'a voulu ainsi. Il l'a permis aussi pour le bien que procure d'être ensemble et de développer mutuellement les attributs du caractère de Dieu. Seul, on n'a pas beaucoup de choix à faire. Alors qu'à deux, il faut penser en fonction de l'impact que suscitera chaque choix que nous ferons et qui amènera l'autre à réagir sur ses choix. On peut réjouir notre partenaire, mais on peut aussi le ou la blesser. Il y a une certaine maturité qui s'établit dans un couple lorsqu'il y a des choix à prendre et qui concernent le bonheur que l'un et l'autre devraient retirer de différentes situations qui se présenteront à eux pour la stabilité du couple. Je voudrais apporter un petit ajout important ici concernant le mariage. Deux personnes se rencontrent évaluent leurs possibilités de partager une vie en commun et réalisent qu'ils pourraient franchir cette étape et apporter le bonheur que chacun espère du mariage. Par contre, il peut survenir différentes situations dans la vie, différentes circonstances qui obligeront le couple à se séparer. On ne peut pas prévoir l'avenir sur l'union de deux êtres qui ont voulu le bonheur de leur environnement en tant que couple. Les intentions de vouloir, de pouvoir au bonheur, de pourvoir au bonheur de l'un et de l'autre étaient fort possiblement un critère bien réfléchi de la part du couple. L'intention d'établir un univers resplendissant au sein d'une union qui éventuellement impliquerait l'ajout d'enfants qui agrandirait la cellule familiale devait augmenter ce désir de rendre parfait l'épanouissement du couple. Les intentions de procéder à cet engagement devaient être quelque chose de très sincère et à ne pas douter. Par contre, il y a certains événements, certaines conditions malencontreuses qui pourront survenir et amener à une malheureuse rupture et créant ainsi d'énormes blessures. Certains d'entre nous avons eu connaissance de ce genre de fléau, que ce soit dans la famille ou même des amis. Personnellement, dernièrement, j'ai rencontré un ami de jeunesse. Ça devait faire au moins 30 ans que je ne l'avais pas revu et, tout heureux de le revoir, j'étais enthousiasmé de savoir comment se comportait son épouse. Et j'ai reçu comme réponse que ça faisait des années qu'ils étaient divorcés. Je vous avoue que les mots me manquaient face à cette réponse. Mais voilà, on ne peut qu'être attristé de ce fléau, mais aujourd'hui, c'est malheureusement chose courante pour bien du monde. Voyons maintenant quelques recommandations sur l'engagement du mariage. Allons dans Proverbe. Proverbe 12. Proverbe 12. Alors, nous sommes dans Proverbe 12 au verset 4. Proverbe 12 au verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans les eaux. Allons à Proverbe 21 maintenant. Proverbe 21, et nous prendrons le verset 19. Proverbe 21 au verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Allons maintenant à Proverbe 25. Prenons le verset 24. Proverbe 25 au verset 24. Ici, c'est comme une répétition à différents endroits, comme c'est marqué dans les proverbes. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on peut facilement mettre le mot homme à la place du mot femme. On retrouve ce même phénomène autant chez les hommes que sur les femmes. Habiter avec l'un ou l'autre, selon ce que la Bible nous dit, qu'une femme soit querelleuse et irritable, ou qu'un homme soit querelleur et irritable, cela ne permettra pas à un couple de rester uni bien longtemps. Une personne saine d'esprit, capable d'évaluer avec honnêteté les répercussions qu'impliquera une telle union, ne permettra pas qu'un tel engagement puisse avoir lieu, considérant le mal que cela produira dans le couple. Malheureusement pour nous qui pouvons nous retrouver avec des personnes qui franchissent cette période difficile que représente le divorce, cela doit nous sensibiliser, chacun de nous, à avoir cette compassion devant un tel événement et de pouvoir s'abstenir de porter des jugements sur une brisure aussi désastreuse et destructive qu'un divorce. Dieu est au courant de toutes choses et lui seul a l'intégrité d'établir le pour et le contre de toute situation. Notre nature charnelle n'a pas la faculté d'établir des observations justes. Il lui faut l'Esprit de Dieu pour bien comprendre les choses humaines et surtout les choses spirituelles qui amèneront les humains à être heureux, que ce soit individuellement ou en couple. Allons à Jean, s'il vous plaît, Jean 15. Jean 15. Jean 15, et nous prendrons le verset 5 dans Jean 15 au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avoir la capacité d'un bon jugement peut nous être attribué par la présence de Christ en nous, qui nous permettra de concevoir le réel de toute chose. Une des tâches principales de chacun de nous dans le couple est de comprendre et savoir ce qui serait le mieux pour l'autre, de façon à conserver la belle harmonie qui avait été établie dès le début de la formation du couple. Le mariage est un engagement et non une justification pour satisfaire des désirs qui n'auront aucun lien avec les responsabilités qui découleront de cet engagement. Il est sûr que s'il n'y a pas une grande compatibilité existante dès le début de l'union de deux personnes, on risque de s'engager dans une malheureuse entreprise que représente un mariage mal évalué et qui amènera une ruine sur l'investissement que nous y aurons mis ou accompli en pensant que ça fonctionnerait quand même, même si ce n'est pas parfait au niveau de la compatibilité. Ça deviendrait un mariage très difficile à gérer. Pour terminer ce premier engagement, qui est très important pour Dieu, il nous faut absolument comprendre que s'engager dans l'union que représente un mariage ne consiste pas à soutirer ce qu'il y a de bon à obtenir de l'autre. Ça, c'est de l'égoïsme. Chaque individu a sa personnalité, ses besoins, ses désirs. Mais il ne faut surtout pas oublier que chacun a ses faiblesses et ses défauts. Et cela se découvre assez rapidement dans un couple. De là l'importance de bien y penser sérieusement avant de s'engager. Terminons ce premier engagement important avec un passage. Allons à Proverbe 5. Proverbe 5. Proverbe 5, au verset 18. Proverbe 5, au verset 18. Que ta source soit bénie et fais de ta joie de la femme de ta jeunesse. Revenons maintenant à cet engagement le plus précieux de tous les engagements qu'un être humain aura à faire. Il ne nécessite pas seulement d'un renoncement de notre moi, de nos désirs personnels, mais au contraire, il dépend exclusivement d'un engagement très personnalisé et dépourvu d'orgueil à l'égard des réalisations que chacun de nous pourront accomplir à la suite des responsabilités qui sont reliées à cet engagement. Il y a quelques semaines, nous avons renouvelé Il y a quelques semaines, nous avons renouvelé cet engagement précieux pour la majorité d'entre nous. Nous avons pris l'engagement de continuer, même si ça fait des années que nous avons considéré le baptême comme essentiel pour entreprendre une nouveauté de vie. Nous avons considéré à ce moment-là que ça demeurait le meilleur chemin pour se laisser nettoyer par Christ de toute anomalie reliée au péché. Dès le début de notre interaction avec ce choix de se laisser façonner par Christ, nous avons entrepris un engagement qui devenait pour nous irréversible, malgré toutes les tourmentes qui se manifesteraient tout au long de notre cheminement. Nous savons par cet engagement que Dieu établit en nous un caractère qui nous permettra d'avoir de plus en plus une meilleure proximité avec lui, ce qui nous permettra également d'avoir une meilleure vision des désirs de Dieu, une meilleure compréhension sur nous-mêmes et sur ce que Dieu s'attend de nous et surtout sur ce qu'il accomplit en nous, avec nous. Tout cela nous ramène à cette prise de décision que nous avons entrepris, du moins pour tous ceux qui ont franchi cette étape, cet engagement, le baptême. Nous avons pris la Pâque suivie de la fête des pains sans levain, qui nous a amenés à considérer ce qu'il pouvait y avoir de caché en nous en tant que parasite représentant le péché, qui d'ailleurs a une grande facilité de trouver un petit espace, un petit coin en nous pour se cacher et sortir au moment convenable pour nous séduire et nous perturber. Dans cet engagement que représente le baptême, il y a un grand réservoir de responsabilité qui est attaché à cet engagement. Et un retour en arrière n'est pratiquement plus envisageable. L'apôtre Paul nous fait référence à l'égard de quitter l'esclavage du péché qui nous tenait dans l'éloignement d'une bonne relation avec la vérité et les intentions de Dieu à notre égard. Allons à Romains 6. Romains 6. Romains 6. Romains 6, et nous prendrons à partir du verset 1. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Au verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéisse pas à ses convoitises. Au verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Au verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, au verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Au début, le baptême semble nous être enfin la solution pour amorcer un virage à 360 degrés et sortir de l'encombrante vie que nous menions à travers une quantité d'actions embrouillées, déroutantes et confuses, guidées par le péché qui nous environnait. Mais à partir de maintenant, ou dans quelques mois, quand nous allons à peine nous souvenir de ce que nous venons de vivre par l'intermédiaire de la Pâque, de la fête des pains sans levain et dernièrement la Pentecôte, et sur quoi on s'est examiné, comment sera rendue l'intensité de notre vouloir à l'égard des changements que nous avons envisagé de corriger, de changer, et pour également les maintenir dans le changement? Aurons-nous toujours le cœur à l'inspiration de ce que Dieu s'attend de nous? Selon notre nature charnelle, nous n'avons Selon notre nature charnelle, nous avons de la difficulté à maintenir l'intensité du changement à opérer. Et un matin, on se réveille et tout l'enthousiasme qui faisait vibrer notre corps, qui nous faisait vibrer face à une épreuve ou une frustration ou une mauvaise expérience, on abandonne. Devant une situation de ce genre, il est important de ne pas perdre le contrôle de la situation et de bien se rétablir dans le but réel de notre existence, de ce que nous sommes réellement en tant qu'entité sur Terre, sur notre but premier et malgré ce qui se passe autour de nous. Nous sommes amenés à se rééquilibrer. Reconnaissant, nous sommes amenés à se rééquilibrer, reconnaissant que l'effort que nous faisons, que nous devons apporter, ce n'est pas quelque chose de courant et de naturel dans la chair humaine. Parce que cette chair humaine a des attentes bien différentes de celles de l'Esprit de Dieu. Allons à Galates 5 pour ce point-ci. Galates 5. Alors, je suis dans Galates 5 et nous prendrons le verset 16 et 17. Galates 5, 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et pourquoi? Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Deux directions totalement différentes, mais ce sont deux observations qui doivent être bien évaluées afin de faire le bon choix. Donc, on se retrouve avec désir humain ou conduite divine avec contrôle. C'est facile d'être distrait ou de se faire distraire et de se laisser attraper avec toutes sortes de choses sur le web, les différents médias sociaux, et encore avec le monde et ses perspectives d'approche qu'il a à l'égard de la façon dont il perçoit les choses. Et finalement, les mauvaises habitudes peuvent revenir une après une, nous séduisant sans qu'on puisse réellement s'en rendre compte, et inévitablement, tout doucement et furtivement, nous retournons à nos idées négatives et à certains comportements que nous avions bien pris la décision d'éliminer. Et à ce moment-là, que devient notre enthousiasme du début? à l'égard de l'engagement profond que nous avions pris avec Dieu pour un changement radical de notre façon de vivre et de la compréhension que Christ a révélée nous concernant à l'égard de ce que nous sommes destinés à devenir. La valeur de notre engagement aura-t-il perdu toute son intensité pour nous empêcher d'avancer, de persévérer et de prospérer spirituellement parlant? Il est important de bien comprendre et être conscient que le découragement au point d'abandonner peut être très intense à ce moment-là. Et Satan, l'adversaire, en est très conscient. Allons à Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26, et nous commençons au verset 31. Je suis dans Matthieu 26, 31. Ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Au verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Au verset 33, Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Au verset 34, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et au verset 35, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. À ce moment-là, on peut constater que les disciples de Christ prirent un engagement très sérieux. Allons maintenant au verset 55 du même chapitre. Nous sommes dans Matthieu 26. Au verset 55. En ce moment, Jésus dit à la foule, là, il venait pour chercher, pour capturer Christ, pour l'amener. En ce moment, Dieu dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Au verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Et que s'est-il passé? Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Allons maintenant au verset 69, où Pierre a ressenti une terrible peur qui l'a amené à quitter l'engagement, la promesse qu'il attribua à son attachement à Christ. Allons à 69, s'il vous plaît. Matthieu 26, 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen, au verset 70, mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire, au verset 71, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient avec eux, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Et voyez au verset 72, il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Et au verset 73, peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Au verset 74, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Au verset 75, et Pierre se souvint de la parole de Jésus, que Jésus avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Y aurait-il quelque chose qui pourrait nous arriver et qui nous amènerait sur le même chemin que Pierre a utilisé pour fuir par la peur l'engagement qu'il avait promis à Christ de le suivre même s'il mourait? Nous terminerons cette première partie avec une réflexion. Depuis que l'homme existe, depuis que les nations existent, quel fut l'engagement le plus exigeant à prendre pour toutes ces nations et avec lequel on a pu constater des effets positifs, créant des liens inébranlables, des liens indestructibles, et qui a permis qu'une paix et un bien-être sans peur, sans représailles, sans douleur, a-t-elle été instaurée pour le confort de l'humanité? Aucune. Il ne leur en reste qu'une seule qu'ils n'ont pas explorée. Et nous en verrons la majeure partie dans la partie 2 de cet exposé. À tous, un agréable moment de paix et de réflexion en ce merveilleux jour de repos que Dieu nous donne, que nous a donné à tous pour notre bien-être.